questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Alzheimer la radio. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle émission, nous allons nous projeter un peu dans le futur, enfin pas tant que cela, mais nous allons parler du dispositif Parcours Préserva porté par le groupement Sepia 41. C'est en fait une nouvelle vision des EHPAD et surtout une nouvelle vision de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie. Et pour parler avec nous de ce sujet passionnant, nous sommes avec Marion Fischer, directrice de deux EHPAD dans la Beauce. Bonjour Marion.
Bonjour.
Avec nous également un autre initiateur du projet, directeur de trois EHPAD dans le Loir-et-Cher. Il s'agit de Pierre Guabeau. Bonjour Pierre.
Bonjour, ravi de vous retrouver.
Alors dans quelques minutes, on va évoquer le dispositif Parcours Préserva. Mais avant toute chose, pour commencer, que dire sur la perte d'autonomie, Marion ? Certaines personnes peuvent rester chez elles et d'autres non, en fait.
Ah, je dirais que c'est pas exactement comme ça que je le définirais, on va dire. Disons que le souhait de chacun, je pense, c'est un souhait qui est très très largement partagé, c'est effectivement de vieillir le plus longtemps possible chez soi, pouvoir disposer de son autonomie, de choisir pour sa propre vie, en fait. Je pense que c'est ça le déterminant commun. La difficulté, c'est que avec l'avancée en âge, on est confronté à de plus en plus d'obstacles à cette liberté-là. Et de fait, rester à domicile n'est pas toujours la meilleure des solutions pour tout le monde, avec les difficultés qui peuvent s'accumuler. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, il y a tout un tas de dispositifs qui peuvent être sollicités pour continuer à rester à domicile le plus longtemps possible. Pour d'autres, effectivement, l'entrée en EHPAD est un petit peu inévitable. Et l'idée, c'est de ne pas opposer les prises en soins et les solutions d'accompagnement, que ce soit au domicile ou en EHPAD, ne pas toujours opposer systématiquement les deux systèmes d'hébergement et d'accueil, mais de les mixer, d'essayer de créer ces synergies et ces rapprochements pour que ce soit plus forcément deux systèmes complètement différents, mais au contraire qui cohabitent et puis qui puissent être interopérants, en fait. C'est plutôt ça l'idée, en tout cas, de notre dispositif.
C'est aussi votre vision, Pierre, quand on parle de perte d'autonomie ?
Oui, Marion Fischer a résumé pour nous le point d'achoppement. On a trop longtemps opposé domicile et établissement, comme si dans l'accueil en EHPAD, il y avait une forme de renoncement. Alors qu'on sait aujourd'hui que l'EHPAD peut être une réponse quand elle s'inscrit dans un libre choix. Le sujet aujourd'hui, à travers le dispositif Parcours, qui est le nom générique, et Préserva, qui est le nom local du dispositif, on vise bien à permettre aux personnes en perte d'autonomie et à leurs aidants de pouvoir choisir et surtout d'avoir une réponse de proximité par des professionnels compétents pour les accompagner dans leur parcours de vie et dans leur parcours d'autonomie. C'est bien ça, c'est la différence entre l'indépendance et l'autonomie. L'indépendance, c'est la capacité d'exercer seul les actes de la vie quotidienne. L'autonomie, c'est la capacité de faire ses propres choix. Eh bien, le dispositif Préserva Parcours, comme sésame sur le territoire de Marion Fischer, c'est bien ça, c'est de permettre de ce qui est pour nous le cœur de nos missions, c'est de soutenir l'autonomie, c'est-à-dire accompagner la dignité, le libre choix et la citoyenneté des personnes en perte d'autonomie et de leurs aidants. Ne les oublions pas.
Alors, c'est ce qui amène ma deuxième question. Pour rentrer un peu plus dans les détails, Marion, quel est l'ADN de ce dispositif Parcours Préserva ?
Alors, effectivement, le dispositif, alors on l'appellera Parcours puisqu'il concerne différents territoires et il se décline avec des noms différents selon les territoires, puisque dans l'ADN, justement, puisque vous posez la question, le mot premier, je dirais que c'est la proximité et l'accompagnement vraiment au plus près de l'usager. On a trop souvent des dispositifs d'accompagnement qui se situent dans les grosses villes du département, par exemple, ou de la région. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment être au plus près du terrain. Et on a la chance, dans le Loir-et-Cher, c'est d'avoir une répartition des EHPAD publics qui sont porteurs de ces projets-là dans chaque canton, à l'échelle des anciens cantons. Et donc, tous les 15 kilomètres, on trouve un EHPAD public. Donc, on reste sur une hyper-proximité. On parle de 15 kilomètres à la ronde autour de l'EHPAD. Et donc, nous, notre but, c'est d'accompagner les personnes qui nous identifient très rapidement et en hyper-proximité. Donc, ça, c'est peut-être la première des choses, c'est le territoire, le lien avec les élus. Et puis effectivement cette proximité. Ensuite, c'est faire confiance aussi aux professionnels des EHPAD puisqu'ils ont de réelles compétences et qu'on les met en fait au service du territoire en proximité. Donc ça, c'est le deuxième aspect, je dirais, c'est faire confiance aux professionnels et soutenir évidemment ces compétences-là et les offrir sur le territoire en ouvrant nos EHPAD. Et bon, le troisième point, évidemment, l'ouverture de l'EHPAD et essayer de changer ce regard aussi qu'on peut porter sur l'institution, parce que l'institution, on y pense comme on y rentre et puis après, ben, on en sort, comme on le sait, souvent par le destin, on va dire. Là, aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir ouvrir aussi les portes de nos EHPAD. Hein. Mon dispositif s'appelle Sésame, où c'est ouvrons les portes de l'EHPAD. C'est aussi voilà, y venir, mais pour une heure, pour une activité, pour venir chercher justement de la compétence du conseil, parce qu'il y a des professionnels qui gèrent les sujets liés au grand âge tous les jours, et ils ont cette capacité à partager. Donc voilà, proximité, partage, puis reconnaissance de nos professionnels qui ont de réelles compétences sur le terrain.
Alors Pierre Guabeau, vous êtes, si j'ose dire, un habitué de cette antenne. On connaît en tout cas votre investissement dans tout ce qui touche à ces thématiques. Comment on arrive à faire naître un dispositif de la sorte ?
Eh bien, c'est de la conviction profonde, Valérie. On avait pu en témoigner avec vos éditeurs. L'EHPAD hébergeur est mort. Vive l'EHPAD centre de ressources pour les solidarités, l'accès aux soins de santé et l'autonomie. Au-delà de la cantonade, c'est considérer aujourd'hui que dans nos territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, la question de l'accélération du vieillissement, comme l'a dit Madame Fischer, confronte des millions de Français. Et que nous devons réinventer, réenchanter ce lien de proximité qui fait que nous ne sommes plus seuls face à la perte d'autonomie de son proche ou sa propre perte d'autonomie. Le dispositif Préserva, Parcours, hein, qui est le nom générique, Préserva c'était le nom historique, Parcours, il est né de cette ambition de pouvoir se dire, aujourd'hui ce qu'attendent nos concitoyens, ce n'est pas une logique seule d'hébergement, c'est avant tout une logique de proximité. Et que on a la compétence gérontologique, Marion Fischer l'a dit, maintenant à nous d'évoluer dans nos métiers pour qu'on soit une main qui se tend, une oreille qui écoute et qu'on se dise, à côté de chez soi, nous avons une réponse de proximité qui fait le lien avec tous les autres professionnels. Parce que vos éditeurs vont vous poser la question, mais c'est quoi concrètement Préserva ? Ben concrètement, c'est un rendez-vous de prévention personnalisé assuré par des équipes des EHPAD qu'on projette hors les murs, qui proposent des plans d'accompagnement individuels et ou collectifs pour la personne âgée et ou son proche aidant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des groupes de parole entre aidants, pour pouvoir se dire, partager sa difficulté, pour trouver ensemble des solutions. Du soutien psychologique renforcé par nos équipes de psychologues qu'on met à disposition gratuitement. Je rappelle que ce dispositif est entièrement gratuit, dans un premier temps financé par la conférence des financeurs. Et on appelle de tous nos voeux Brigitte Bourguignon pour que dans la prochaine loi autonomie, d'ailleurs, elle le finance durablement, parce que ça marche. Je dirais ensuite que sur les ateliers du bien vieillir, les ateliers sur la prévention de la chute et globalement le renforcement de l'activité physique adaptée, puisque nous avons développé un certain nombre d'activités qui vont en ce sens, des bilans de médication faits avec les pharmaciens d'officine, un certain nombre d'actions individuelles ou collectives qui, en fonction du plan d'aide qui aura été fait à partir d'un rendez-vous de prévention, permettra de faire les liens entre les professionnels dans le territoire. On n'est pas là pour faire le travail des aides à domicile, on est là pour permettre que le lien se fasse. Parce que quand vous avez 85 ans, que vous connaissez un parcours de perte d'autonomie ou vous êtes un aidant, vous repérez dans cette jungle, si je veux dire, c'est difficile, et qu'on a un grand nombre de situations qui pourraient être évitables si on intervient très tôt, si on fait de la prévention et si on accompagne dans la construction du parcours.
Alors, quels sont les principaux besoins des personnes en perte d'autonomie ? Alors, ça peut paraître évident, mais il est important de dire de quoi il s'agit, Marion Fischer.
Les besoins, ils sont multiples. C'est pour ça que Pierre parlait très justement de plans d'accompagnement, parce que il y a tout un tas de versants à regarder autour d'une personne qu'on accompagne. C'est que c'est très divers. Ça peut être physique, ça peut être psychologique, ça peut être tout simplement le lien social. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus quand on me dresse un tableau un petit peu sombre des EHPAD, parce que c'est une vision qu'on a assez régulièrement, malheureusement, dans certains médias ou auprès même de proches qui ne connaissent pas le milieu. C'est de se dire, c'est fantastique de vivre à domicile, puis en EHPAD, c'est bien triste. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vivent à domicile, alors dans des anciens corps de ferme qui ne sont pas du tout adaptés. Donc évidemment, on a l'adaptation du domicile qui est un enjeu fort, puisqu'on vit dans dans une maison qui est exiguë, dans laquelle se déplacer avec un déambulateur ou un fauteuil, c'est très compliqué. Donc, il y a évidemment toute la partie aménagement du domicile, mais il y a aussi le lien social. Quand on n'a plus nos amis à proximité, quand on a des proches qui sont loin, qui travaillent, qui ne peuvent pas être disponibles tous les jours, on a très peu d'interactions sociales. Et du coup, on a commencé en parlant vraiment de liberté de la personne, qu'elle soit en perte d'autonomie, mais libre, et qu'elle continue à être libre aussi, libre d'avoir des interactions sociales, libre d'être citoyen. Et l'EHPAD, je pense, dans cette dynamique-là d'ouverture et d'accompagnement, repermet aussi un lien social, le renforcement ou la création de liens sociaux qui n'existent plus. Donc parfois, effectivement, passer une heure l'après-midi dans l'établissement pour un atelier qui est proposé, on ne demande pas de poser ses valises, mais par contre, on a ce lien et on a des conseils, on a un lien social qui se crée. Donc je pense que ça, c'est un besoin sur lequel j'accentuerai le développement.
Vous vouliez réagir, Pierre Guabeau ?
En un mot, l'écoute des aidants et l'écoute des personnes en perte d'autonomie est fondamentale. On a développé des permanences téléphoniques qui sont aujourd'hui plébiscitées par nos usagers. Quelques chiffres. Mon territoire Préserva de Brasseuse, que vous avez compris que c'est des pôles territoriaux qu'on met en place. C'est en quelques mois plus de 200 personnes accompagnées. Et aujourd'hui, ce que les familles et les personnes en perte d'autonomie plébiscitent, c'est la disponibilité et la réactivité et la proximité. C'est-à-dire quoi ? C'est aujourd'hui, on est en train de faire la démonstration que quand on apporte une réponse humaine, réactive aux aidants et aux personnes en perte d'autonomie, la question n'est plus d'opposer domicile versus EHPAD, c'est de créer des convergences, des cohérences, des parcours pour qu'il n'y ait plus de rupture. Et ça, j'insiste, chère Valérie, et merci encore de me donner la parole. Vos auditeurs sont très sensibles à chaque fois à nos positions. Je crois qu'il n'est plus question de se dire que la seule solution de l'hébergement en EHPAD est une réponse définitive. Ça correspond à des séquences d'accompagnement. Et je crois que finalement, la réussite du dispositif parcours, qu'il soit sur Sésame ou sur Préserva, c'est quoi ? C'est la capacité de s'adapter aux besoins et de se dire que une vérité ne fait pas l'autre et que nous avons à gagner à mettre de la cohérence et des convergences dans nos actions. Et c'est peut-être ça la plus grande attente de vos auditeurs, c'est que ce n'est pas à eux de s'adapter à l'institution, mais à nous, institutions, de s'adapter avant tout à leurs besoins.
Alors Marion, quels sont les premiers retours que vous avez concrètement suite à la mise en place de ce dispositif ?
Alors concrètement, je pense que ça apporte effectivement un soutien. C'est le premier des mots, hein. Pierre vient de parler d'écoute, c'est très juste. C'est des personnes qui parfois sont tellement éloignées d'accompagnement qu'on a pu raccrocher et qui ont pu effectivement éviter des situations dramatiques dans lesquelles on a pu récupérer, nous, des personnes qui vivaient encore à domicile. Hein. C'est les commissions d'admission en urgence pour des situations dramatiques et il faut une entrée le lendemain parce que c'est urgent. On n'a pas le choix, on n'a pas de solution. Et c'est très violent pour l'usager qui, effectivement, va entrer en institution sur une situation d'urgence qui était pas tellement anticipée. Aujourd'hui, on a des liens qui se créent de façon beaucoup plus apaisée. Je donne des exemples parce que les exemples, ça parle beaucoup. Une petite dame qui, effectivement, est rentrée dans notre dispositif. Alors elle, via ce lien social, cette recherche de lien social, parce que c'est une dame qui était toute seule à domicile, qui se débrouillait à peu près parce qu'elle avait tout un tas d'accompagnement, d'aide à domicile sur place qui permettait quand même un maintien à domicile. Et c'est encore une fois, c'est ce qu'on souhaite. Hein. Elle venait manger à l'EHPAD le midi. De façon très régulière, tous les midis elle venait manger, donc ça lui permettait d'avoir un repas chaud, de prendre son temps pour manger, d'être accompagnée, de rencontrer du monde aussi, hein. Donc c'était quelque chose qu'elle a beaucoup apprécié. Et puis une fois, cette petite dame, elle est venue mais en pleine nuit, au lieu de venir à midi, elle est venue à minuit. Et là, c'est vrai que nous, on a pu alerter sur cette absence auprès de sa famille, par exemple. Ça a été un relais qui a été pris. Et effectivement, la dame avait fait une chute à domicile. On a pu s'en rendre compte tout de suite, en fait. Ça a permis, si vous voulez, d'alerter, de prendre la situation un peu en amont. Et puis, cette dame, elle a fini par rentrer quelques mois plus tard, hein, peut-être 6 mois plus tard. Mais elle connaissait déjà un petit peu les usagers. Elle commençait à se faire des liens avec les autres usagers. Nous, le retour qu'on a eu de la famille, c'est de se dire que voilà, c'est ce qu'ils auraient toujours recherché quelque part. C'est-à-dire qu'elle a été à domicile le plus longtemps possible Et puis, l'entrée ensuite en institution, quand ça n'était plus possible à domicile, elle s'est faite de façon beaucoup plus apaisée. Donc ça, éviter les ruptures, c'est ce que disait Pierre tout à l'heure. Et puis, le deuxième aspect, c'est simplement venir passer une après-midi pour un atelier à l'EHPAD. Et ça, ça fait une pause. Je suis aidant, je peux faire une pause pendant 1h30 et j'ai un groupe de parole à disposition avec une psychologue. D'autres familles aussi qui sont dans la même situation que moi, ça permet quand même d'apaiser, de psychologiquement, de souffler un petit peu. Et mon proche, bah, je l'abandonne pas, parce qu'on a souvent le problème de la garde, entre guillemets, des proches, justement. Il était dans un atelier de médiation animale juste à côté, dans une autre pièce, voilà. Et c'est 1h30, une pause, un peu inattendue, parce que actuellement, on n'attend pas ça d'un EHPAD qui se développe là et est vraiment positif pour à la fois pour les dents et pour l'aider. Voilà. Donc les retours très positifs, c'est deux exemples parce que c'est parlant de ce qu'on produit, mais c'est deux exemples parmi tant d'autres.
Bon, alors quand on voit la richesse de ces centres de ressources, on sent que ça accomplit déjà beaucoup de choses extrêmement positives. Si je vais un tout petit peu plus dans le concret, comment finance-t-on ces centres de ressources ?
Alors, Valérie, vous touchez aujourd'hui le cœur de la difficulté. Pour l'instant, et je tiens à remercier d'ailleurs la conférence des financeurs du département du Loir-et-Cher qui, depuis maintenant 2 ans et demi, nous fait confiance en portant à bout de bras ce projet, qui est un projet très raisonnable en termes de financement. Hein. C'est, pour rappel, le projet total de l'EHPAD centre de ressources sur son territoire, c'est 55 000 euros par territoire, 23 000 euros de la conférence des financeurs par an et 26 000 euros par l'ARS au titre du volet prévention et 5 000 euros d'autofinancement de l'EHPAD. On voit qu'aujourd'hui, le problème de la conférence des financeurs, le problème du modèle économique, c'est qu'il repose sur des appels à projets à reconduire tous les ans et qui produit un essoufflement des acteurs à chaque fois à porter à bout droit. J'ai déjà eu l'occasion de le dire à votre antenne, je crois qu'on appelle de tous nos voeux cette grande loi autonomie solidarité qui devra définir le périmètre de l'EHPAD de demain résolument pour nous, et on en a fait la démonstration, et je crois que Marion Fischer nous a saisi par ses illustrations humaines que l'EHPAD n'est pas qu'un endroit où on héberge des personnes âgées dépendantes. Nous aujourd'hui on dit notre métier c'est d'accompagner un territoire et les hommes et les femmes qui le composent sur la question des solidarités. Alors oui, chère Valérie, nos EHPAD résolument demain devront être dans la prochaine loi autonomie des centres de ressources pour les solidarités et l'autonomie dans nos territoires, au service du territoire. C'est bien là notre rôle, nous, acteurs publics, d'être une vraie mission de service public, un vrai opérateur de service public, parce que aujourd'hui, on doit défendre ce grand rôle de solidarité nationale qui est la solidarité envers les plus fragiles d'entre nous.
Alors dernière question, je vais commencer par vous, Marion Fischer. Quel est l'avenir du dispositif Parcours Préservant ?
Alors, les projets, effectivement, sont assez récents et surtout, ils ont été portés par le groupement des EHPAD publics du Loir-et-Cher. Ça, c'est quelque chose aussi à souligner, c'est que on travaille pas seul. Des projets aussi ambitieux, il faut les construire ensemble. Donc, c'est la convergence de volonté, je dirais, personnelle d'abord, parce qu'il y a eu des directeurs à l'initiative, effectivement, Monsieur Guabeau, puis d'autres territoires, etc. Donc, c'est la volonté aussi de personnes qui ont envie de travailler dans le même sens et qui sont surtout convaincus des valeurs portées. Hein. On en a parlé en tout début d'émission, mais c'est les mêmes valeurs qui nous animent et du coup, le fait d'être convaincu aussi pour soi-même, je dirais, hein, puisque voilà, le modèle qu'on défend, c'est celui qu'on aimerait trouver quand nous, on sera nous-mêmes confrontés à la perte d'autonomie. Donc, je pense qu'on réfléchit à ça en conscience aussi. La genèse du projet, c'est celle-ci. Et vers où on va? Le projet, il se décline dans les territoires. C'est-à-dire qu'on part d'une expérimentation, on fait des retours d'expérience et pour améliorer à chaque fois le dispositif, on retravaille notre fiche de projet, on va dire, année après année, hein, maintenant. Et on étend cela aux différents territoires. Donc, c'est renforcer l'offre, c'est l'adaptation aussi parce qu'on fait preuve d'une très grande adaptabilité et pour le coup là je soulignerai moi l'investissement des équipes hein, puisque c'est effectivement se réinventer au fur et à mesure et au fur et à mesure des demandes. Cette année avec le Covid ben, on s'est adapté, on n'a pas cessé notre activité, on s'est fait la réflexion justement au niveau des rapports d'activité, c'est-à-dire qu'on avait quand même réussi à faire beaucoup de choses et à être agile dans notre organisation pour se réinventer et s'adapter à la situation. Nous avons, par exemple, pu proposer la vaccination dans nos centres de vaccination EHPAD, puisqu'on en était de fait. On a pu proposer cette vaccination aux usagers de parcours. Donc ça, c'est aussi, je pense, l'ADN de notre projet et ce qui nous permettra effectivement de le faire évoluer, de contaminer, on va dire, d'autres territoires de cette façon. Alors, contaminer, c'est pas le bon terme en ce moment, mais en tout cas, d'essaimer ce système-là et puis de l'améliorer et de l'adapter toujours aux besoins, puisqu'ils évoluent.
Un mot pour terminer, Pierre Guabo?
Oui, mais ce que vient de dire Marion Fischer est fondamental. C'est qu'aujourd'hui, on a fait la démonstration que c'est en partant des territoires, en partant des envies et des compétences que nous avons dans nos établissements, en les mettant en convergence, en cohérence, qu'on arrive à avancer et aller vite. Je le rappelle, en 3 ans, c'était d'abord 3 territoires et aujourd'hui, c'est 11 territoires qui sont porteurs du dispositif. C'est remarquable. On aura complètement globalisé le département du Loir-et-Cher, on l'espère, à l'horizon 2022. Donc, on aura mis moins de 4 ans pour le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est possible si on fait confiance aux acteurs de terrain. Et ça, Valérie, j'insiste. Aujourd'hui, les EHPAD publics sont prêts à faire cette œuvre-là, de réinventer leur rôle. Et ça, ils sont au rendez-vous. Et mon dernier mot, je ne serai pas plus long, c'est que quand on permet aux professionnels de reprendre leur destin en main et d'aller en confiance à la rencontre des territoires, des familles, des usagers, des élus locaux, on trouve des énergies incroyables ensemble et on arrive à lever les doutes. Et j'en veux pour preuve, on n'a jamais été aussi sollicité avec le groupement des EHPAD publics CEPIA 41 pour témoigner à chaque fois des différentes initiatives qui naissent de nos EHPAD. De la démarche qualité de vie au travail pour nos salariés, de la démarche préserve à parcours ces âmes comme là on vient d'en parler, du projet du système d'information des établissements médico-sociaux. C'est qu'on projette résolument la question des âges comme un enjeu d'avenir et je peux vous dire que le service public du grand âge, il est en train aujourd'hui de se dessiner.
Eh bien, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission et on vous souhaite bien entendu beaucoup de succès pour la suite de ce dispositif parcours préserva.
Merci Valérie.
Au revoir.
Merci aussi à vous, chers auditeurs, de votre fidélité. Vous avez une question, un témoignage? Eh bien, vous pouvez réagir sur l'espace commentaire de la radio ou sur la page Facebook de l'association France Alzheimer. Vous pouvez aussi réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Vos questions, nos réponses.